au début, c'est quand je reviens voir les collections du musée, c'est toujours avec plaisir, mais j'ai toujours une petite appréhension, parce que c'est des meubles sur lesquels j'ai passé un certain nombre d'heures, et toujours, pas l'angoisse, mais la peur de voir comment ont tenu mes restaurations. Est-ce que je ne vais pas trouver un collage qui a lâché, ou sinon une mauvaise manipulation, ou une nouvelle dégradation. Donc j'ai toujours un petit... surtout pour les meubles vernis, les meubles avec beaucoup de marqueterie, une petite appréhension, puis après je retrouve le plaisir de les reprendre en main. Voilà, alors là nous avons une armoire baroque avec des colonnes torsadées. Contrairement aux autres armoires, on avait à peu près une dizaine d'essences de bois, 8-10, là on en a deux, on va dire. On a l'ossature qui est toujours en résineux, et le décor massif et plaqué qui est en noyer. Alors un noyer de fil ou un noyer ramageux, une ronce de noyer, plutôt ramageux, ouais. Ouais, et là, il faut compter à peu près 9 mois pour réaliser une armoire. Il faut compter à peu près 15 mois de salaire d'un ouvrier, rien que pour se fournir en bois. Alors, au point de vue de la fabrication, c'est formidable. C'est de nouveau du bois sur quartier, toute l'ossature en bois sur quartier. Donc, un très, très beau choix. Et si vous regardez le plaquage, en particulier qui recouvre la corniche, toutes les coupes d'angles en fait sont faites d'onglets, c'est-à-dire que on ne voit pas le joint du plaquage ici. Chaque coupe a été ajustée de telle sorte qu'on ne voit pas l'épaisseur du plaquage ici. Donc la corniche, c'est un seul volume qui vient en rainure et languette sur les côtés et le fond. L'armoire est juste constituée d'éléments qui sont empilés les uns sur les autres. On n'a pas de clé d'assemblage. Alors ça, c'est une armoire qui est aussi venue à l'atelier. Et là, ça m'a demandé 200 heures de travail. Justement, pour le plaquage était quand même dans un état de soulèvement plus avancé que sur les autres. Et j'ai passé énormément de temps à recoller le plaquage, c'est-à-dire déterminer les zones décollées, glisser de la colle et surtout prévoir des systèmes de serrage pour avoir le collage le plus parfait, sans avoir à retoucher le bois, toujours être bien à fleur. Donc c'est un mélange de colle d'os et colle de nerf, un tiers de nerf et deux tiers d'os, où on utilise en fait le collagène. Et là, l'avantage de ces colles, donc colle chaude ou colle de poisson, qui est fait à partir de déchets de poisson, elle s'utilise plutôt à froid. On appelle ça le grand principe en restauration, la réversibilité. Donc ces colles sont réversibles, c'est-à-dire que ce sont des colles qui se décollent. Et c'est ce qu'on demande à une colle en restauration. Et ce sont des colles qui sont très faciles d'emploi. Alors c'est sûr, elles demandent d'utiliser la chaleur. Si on plaque à la colle chaude, il faut régulièrement rapporter de la chaleur sur la pièce que l'on colle, ou bien par des cales, ou bien par des fers. Mais ça permet d'avoir un temps d'assemblage beaucoup plus confortable, et ça nous laisse le temps de bien positionner la pièce. On peut revenir sur un collage. Par exemple, si j'ai collé un complément de plaquage, si jamais je me rends compte qu'il n'est pas bien à fleur par rapport au plaquage existant, le lendemain, je peux réchauffer légèrement la colle et ramener le plaquage au bon niveau. En général, je travaille dans mon atelier, mais régulièrement, je travaille sur place aussi pour des petites interventions. Il m'est déjà arrivé à l'heure Notre-Dame de travailler plusieurs jours d'affilée juste pour vérifier toute la collection. Donc, je me promenais avec ma caisse à outils, mon petit pot à colle dans un réchaud, et je passais de meuble en meuble pour vérifier la tenue des moulures, des petits décors, refixer quelques bronzes, Ouais. certain nombre de rabots, la varlope, la demi-varlope, des petits rabots recalés, un guillaume, un rabot qui permet vraiment d'aller en fond de feuillure. La lame est à fleur sur les côtés. Le rabot à dents est utilisé pour aussi bien pour ragréer des surfaces un peu difficiles, un peu noueuses, pour arriver à avoir une belle planéité, mais avec un fil un peu retors, ou sinon à préparer les surfaces que l'on va plaquer. C'est-à-dire on raye le bâti, et on peut rayer le plaquage aussi pour avoir une meilleure accroche pour la colle. Et là, j'ai un chevalet marqueteur, un outil que nous, les restaurateurs, on aime bien, un outil tout en bois. Et c'est là tout l'intérêt du métier, c'est qu'on a une autre approche de l'œuvre. Toute la partie historique nous est donnée par le conservateur. Et lui-même est là pour diriger la restauration et guider le niveau de l'intervention. On va définir ensemble, par exemple, le niveau de décrassage d'une armoire. On a des lacunes à combler. Quelles lacunes nous allons combler? Quelles lacunes nous allons laisser? Les UV du soleil transforment la teinte et étonnamment on arrive à un ton médian orangé à peu près. Cette transformation de la teinte se fait dans le bois et aussi au niveau de la couche de finition. C'est pour ça que lorsque l'on refait une finition, on arrive à retrouver une certaine profondeur dans les différents tons, puisqu'on a retiré la couche de finition qui était passée, et une nouvelle cire ou un nouvel encaustique ou un nouveau vernis va redonner un peu d'éclat au meuble. Mais jamais on ne poncera un meuble où on essaiera de retrouver la couleur d'origine. Jamais. J'utilise beaucoup de finitions à base de cire. Pour le mobilier 18e, j'utilise plutôt des finitions à base de gomme lac, les vernis au tampon. C'est une gomme qui vient d'un arbre d'Extrême-Orient qui nous arrive sous forme de paillettes. Ce sont des vernis que l'on fabrique nous-mêmes. On fait fondre ces paillettes dans de l'alcool à 95 et on a un vernis à l'alcool que l'on travaille avec un tampon ou une mèche ou un pinceau. Enfin, il y a différents types d'applications. Mais c'est vrai que j'utilise essentiellement ces deux modes de finition dans mon travail. Donc là, on est bien dans ce sens. Là, je contrôle avec l'équerre et là, on est bien. Je pense que le métier de restaurateur m'a vraiment attiré par ce côté un peu... on fait appel à pas mal de compétences, c'est-à-dire qu'on faut connaître exactement la conception d'un meuble, la conception des assemblages, mais on est aussi amené à travailler sur des serrures dans la mesure du possible, sur tous les ornements en bronze, sur toutes les techniques annexes qui se retrouvent sur un meuble. Et je le dis bien dans la mesure de nos possibilités. Après, régulièrement, on fait appel à d'autres restaurateurs, d'autres spécialistes pour certaines opérations plus pointues. Et ce côté historique aussi, de travailler sur des meubles anciens. Chaque meuble a une histoire, en fait. Que ce soit le meuble d'un particulier, le meuble de la grand-mère, qu'un meuble de musée. Quand le meuble arrive sur mon établi, il a toute une vie déjà. Et que je retrouve par les traces d'usure, par certains accidents, et des fois par des traces aussi. Les signatures, les traces des artisans, les traces de fabrication, les messages laissés par des artisans, des restaurateurs, des fois qui signent leur restauration. Lorsque j'ai restauré le grand cabinet 17e, là, le précédent restaurateur en 1860 avait laissé un certain nombre de messages, de dessins, d'images qui étaient cachés derrière certaines décorations. Et là, il y a tout un travail d'enquête qui est vraiment intéressant. Accompagner la porte quand même, quand elle a certains poids, oui. Voilà. Et là, évidemment, il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Sinon, là, le fronton de la porte vient s'écraser contre la colonne. Alors voilà, la serrure, qui est très très belle. Donc, de nouveau avec un décor... en laiton découpé et ciselé. Et en fond, on a une plaque d'acier bleu. Pour avoir une opposition de couleurs, de bleu à l'acier aussi, ça évite qu'il s'oxyde. Donc c'est plus bleu à la chaleur. Et la particularité de cette serrure, c'est qu'il y a un compteur, on va dire, qui indique, donc avec 12 graduations, et à chaque ouverture, l'aiguille se déplace d'un cran. Donc là, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, indéfiniment. Faut raisonner vraiment, faut serrer, non, pour ce type de mobilier, parce que si vous allez dans un musée à Fribourg ou à Karlsruhe ou à Stuttgart, vous retrouvez des armoires similaires, car la source est la même, l'inspiration est la même. Il y avait un échange entre les artisans. Donc la porte est quand même très très lourde. Il y a un léger affaissement, donc pour toujours des meubles qu'il faut quand même manier avec précaution. Donc il faut que j'accompagne la porte en la soulevant légèrement pour que éviter d'arracher quelque chose. Et bien vérifier qu'elle soit fermée.